Europe 1. Europe 1, on de la traconte.
Cette histoire, qui débute en 1973 à Nauphary, près de Montauban, est une histoire de famille. Une famille de tête de mule, une famille de bourriques, comme on dit dans le sud-ouest. Et peut-être une famille de fous, mais ce sera à vous d'en juger. La famille Portal. Il y a le patriarche, Léonce Portal. En 1973, il a 89 ans. Il y a sa femme, Anna, 42 ans plus jeune, une Polonaise. Et leurs enfants, Marie-Agnès et Jean-Louis. Une famille de quatre donc, mais en vérité, une famille de cinq. Car aux quatre humains de cette famille, il faut ajouter la fumade, la propriété familiale. Les Portals ont la fumade dans la peau. Les gens du coin l'appellent le château. En vérité, c'est un petit manoir, une maison bourgeoise, avec tout de même 157 hectares de terres agricoles. Un rectangle de 1,5 km sur 1 km. Des coteaux couverts de blé, de pâturages pour l'élevage, des vignes et autant de sa splendeur. Pour exploiter le domaine, il fallait 4 familles de métayers qui vivaient dans 4 fermes. Du temps de sa splendeur. Parce que la splendeur de la fumade, la splendeur des Portals, ça fait longtemps que c'est fini. Les Portals sont ruinés, endettés jusqu'au cou. Alors la fumade a été saisie et vendue, l'année dernière, à un certain monsieur Rivière, un agriculteur de Balma, près de Toulouse. Et maintenant, les Portals doivent partir. Partir? Vous n'y pensez pas! Le vieux Léonce ne partira pas! Ah ça non! Jamais! Jamais vous m'entendez! Jamais! Ou alors les pieds devant. Parole de Portal, parole de tête de mule, parole de bourrique. Voilà. Voilà pourquoi ils ont barricadé les portes et les fenêtres avec des planches. Ils s'organisent pour un siège. Le problème, c'est que M. Rivière, en principe, il est chez lui. Et il voudrait au moins cultiver ses terres. Le château, on verra plus tard. On verra avec les gendarmes. Mais la terre, ça, il n'a pas l'intention d'y renoncer. Alors, il a envoyé des ouvriers agricoles pour remettre le domaine en état. Et ça s'est mal passé. Avec Anna Portal, la mère. Ce monsieur Rivière, elle lui a hurlé dessus et elle lui a dit d'aller se faire voir et de ne pas remettre les pieds sur ses terres. Sinon, on a des fusils et ça va pas nous gêner de nous en servir. Ses injures et ses menaces envers M. Rivière, Anna Portal a été condamnée l'année dernière à 4 mois de prison ferme. Mais c'est pas tout. Quelques mois plus tard, un adjudicateur a eu l'outrecuidance de se présenter à la fumade pour notifier au Portal l'arrêté d'expulsion. Expulsion ! Expulsion ! Expulsion, mon cul ! Jean-Louis, le fils, a reçu l'adjudicateur à coups de fusil. Et c'était pas son coup d'essai. Quelques jours plus tôt, il avait menacé M. Rivière, terrorisé les ouvriers agricoles et saboté leur matériel. Il était convoqué chez le juge. Il n'y est pas allé. Alors il fallait s'y attendre, les gendarmes sont venus le chercher. Sa sœur leur a dit qu'il était grippé. Alors ils sont revenus une heure plus tard avec un mandat d'amener et du renfort et un serrurier. Au moment où le serrurier s'est attaqué à la porte d'entrée, sa sœur Marie-Agnès s'est mise à crier « Je vous préviens, hein, Jean-Louis va vous tuer! Il a un fusil à la main !» Alors les gendarmes ont battu en retraite. On ne va pas risquer un mort pour ça. Mais maintenant, les voilà de retour. Et là, ça rigole plus. Ils encerclent la fumade avec leurs estafettes bleues. Ils portent des gilets pare-balles. Non, ça rigole plus. Plus personne ne rentre, plus personne ne sort, vous êtes cernés. Alors quand Anna, la mère, rentre de Montauban, où elle est allée faire ses courses, elle se fait cueillir au bas du chemin en sortant de l'autocar. Les gendarmes ont deux bonnes raisons de l'arrêter. D'abord, elle est condamnée à 4 mois de prison et doit purger sa peine. Et puis, elle pourrait servir d'appât. Le lendemain, les gendarmes sortent le porte-voix.
« Sortez de là !»
Depuis une fenêtre de la fumade, Marie-Agnès crie
« Ramenez-nous, Bavard !»
Eh bien justement, le juge d'instruction en charge de l'affaire, le juge Terral, arrive avec maman. « Madame Portal, je vous en supplie, allez convaincre votre fils de sortir sans faire d'histoire. C'est mieux comme ça que si mes hommes vont le chercher. » Évidemment, Anna Portal n'a aucune intention d'aider le juge. Manquerait plus que ça, t'es. Et soudain, Jean-Louis apparaît à la fenêtre. Il a quelque chose à dire au juge Terral. Le juge tend l'oreille et s'entend traiter de
« Vieille fripouille, va ! Vieille fripouille !»
Il a compris. Il repart avec Anna et l'expédie à la prison Saint-Michel de Toulouse. Maintenant, ils ne sont plus que 3 à la fumade. Ou plutôt, 2 et demi, parce que le père, Léonce, il est grabataire. Il est cloué au lit, là-haut, à l'étage. Il ne reste plus pour défendre la propriété que Jean-Louis, 20 ans, et Marie-Agnès, 21 ans, qui font cette déclaration aux journalistes d'Europe 1 qui leur rend visite.
Nous, on a réussi à se procurer des mines qui viennent d'Angleterre.
Mais aussi autre chose, je veux vous dire que tout le printemps, on a été calme, même qu'il a mis l'engrais tout, on a supporté ça, mais la moisson, on ne la supportera pas. On s'y opposera par tous les moyens parce qu'il n'a pas le droit. Pour le moment, il n'est pas vraiment propriétaire. Il n'est qu'adjudicataire.
Alors vous avez mis des mines, c'est vrai ?
Oui, alors on a mis de véritables mines. On ne sait pas si elles ne marcheront pas, mais en principe, elles sont faites pour marcher. Alors passera dessus ou passera pas, mais normalement, ça devrait sauter. Plus, on attaquera avec des engins anti-blindés, on a même en plus le mortier. Si on ne nous rend pas justice, c'est la guerre.
C'est le début d'un siège qui va durer, tenez-vous bien, 2 ans. Pour l'instant, les gendarmes se contentent de surveiller les allées-venues. C'est qu'il ne faudrait pas que ça dégénère, comme l'année dernière à Cestas, près de Bordeaux. Un père qui réclamait la garde de ses gosses et qui s'était retranché avec eux. Les gendarmes avaient donné l'assaut, le père avait tué les 2 enfants, plus un gendarme, et il s'était suicidé. Une maison, même si elle a des airs de château, ça ne mérite pas un carnage. Et comme les enfants Portal ont menacé de se suicider, de tout faire sauter, de tuer leur père, les gendarmes y vont mollo-mollo. Ils ont installé un téléphone de campagne pour garder le contact. Ils laissent passer de la nourriture envoyée par de bonnes âmes. Ils sont tellement détendus qu'ils ne voient pas un jour la mère, Anna, qui revient à la fumade. Elle s'est évadée de prison, figurez-vous. Elle a prétexté une crise d'appendicite pour se faire transférer de la prison à l'hôpital et elle s'est enfuie par la fenêtre, et elle est rentrée à la fumade en faisant du stop. Un jour, Léonce, le père, meurt. Le patriarche lâche le combat, et s'ensuit un épisode assez pathétique. Les gendarmes autorisent les pompes funèbres à livrer un cercueil. Mais au cas où la maréchaussée en profiterait pour jouer le cheval de Troie avec le cercueil, Jean-Louis le fils a sorti le fusil. Mais une fois la mise en bière terminée, les Portal refusent de rendre le cercueil. Chez nous, monsieur, chez nous, on enterre les gens dans son jardin, à la fumade. Il y a un cimetière. Jean-Louis creuse un trou et annonce. Nous ne l'enterrerons dans cette terre que le jour où notre droit de propriété aura été reconnu. En attendant, le cercueil reste à la fumade. Et cette saga du cercueil de Léonce passionne la presse, vous vous en doutez. Et les Portal la mettent en scène. Ça aussi, vous vous en doutez. Les photographes s'en donnent à cœur joie. Le cercueil avec Anna, le cercueil avec Anna et les enfants, le cercueil avec le fusil. Après cet épisode, il se passe des semaines et bientôt des mois sans que rien ne bouge. Les gendarmes encerclent toujours la fumade. Il y aura d'autres épisodes, je vous rassure, mais je voudrais profiter de cette pause dans le récit pour vous raconter comment on en est arrivé là. Pourquoi les portails sont ruinés? Pourquoi ils étaient dans l'incapacité de garder la fumade? Le problème, figurez-vous, remonte à 1933, 40 ans plus tôt, à la mort d'un vieil oncle. C'est lui qui choisit Léonce pour lui succéder à la tête de la propriété familiale. Et pourquoi? Parce qu'il est protestant. C'est essentiel dans cette affaire. La fumade est une terre protestante depuis des siècles. Ce qui peut expliquer cette paranoïa presque culturelle, ce sentiment de persécution. Quand Léonce hérite de la fumade en 33, c'est une très bonne affaire. 157 hectares, cultivés par 4 familles de métayers. Il y a même 5 hectares de vignes, un petit blanc, très buvable. On n'est pas loin de Gaillac. Quand Léon s'hérite, il prend ses précautions. Sa première femme rédige un testament en sa faveur. Si elle meurt, Léon se récupère sa moitié. Problème, quand la première épouse de Léon se meurt, le testament a disparu. Le notaire, maître Bienassis de Colusson, l'a égaré. Et c'est le début des emmerdes. Léonce n'hérite pas de sa femme. C'est sa belle-sœur qui récupère la moitié de la fumade. Et elle la vend à des marchands de biens de Gironde. Léonce va se battre pendant 20 ans pour récupérer cette moitié. 20 ans de procédure. Et il va gagner. Le notaire, qui était un escroc et qui entre-temps s'est enfui en Espagne, retrouve le testament. Et Léonce récupère sa fumade. Mais entre-temps, pendant ces 20 ans de combat, il faut payer les avocats, il faut donner la moitié des revenus aux nouveaux propriétaires. Les dettes s'accumulent. À ce moment-là, bien sûr, il aurait fallu s'arranger, chercher la voie du compromis. Un mauvais arrangement, c'est connu, vaut mieux qu'un bon procès. Les portails ont choisi l'inverse. Le conflit, la procédure. J'ai pas le courage de vous raconter toutes les procédures. Il y en a eu 71 en tout, jusqu'à les rendre fous. Fous, vous verrez. D'habitude, quand un forcené se retranche chez lui, au pire ça dure une journée, deux maximum. Pour les portails, ça va durer 2 ans. Et pourquoi diable ? Tout simplement parce que les portails ont gagné la bataille de l'opinion. Et comme ça dure, ça devient un feuilleton. À la radio, à la télé, dans les journaux, dans les feuilletons. Il y a des gentils et il y a des méchants. Tout dans l'histoire des portails amène à les regarder avec bienveillance. Tout. Léonce, il se retrouvait veuf à 64 ans, seul. Sans héritier, sur ce grand domaine. C'est touchant. Anna, sa femme, elle est polonaise. Elle a connu la guerre, elle a connu la déportation. Ça aussi, c'est touchant. Leur mariage, il était protestant, et pas qu'un peu, et elle, catholique. L'évêque de Montauban est allé voir le pape pour qu'il puisse se marier à l'église, en présence d'un pasteur et d'un prêtre. Ça aussi, c'est une belle histoire. En 73, on s'en fiche de la guerre des religions. Leur différence d'âge, 42 ans, c'est vrai, c'est beaucoup. Mais en 73, 68 est passé par là. On s'en fiche des différences d'âge, les gens sont libres. Et par-dessus tout, ce qui marque dans cette affaire, c'est le glissement vers la misère. Quand les portails ne peuvent plus acheter de semences, quand la baronne, comme on l'appelle, Anna, fait le tour du pays dans sa deux chevaux à bout de souffle pour vendre du fromage, des œufs, bref, ce qui lui reste pour faire bouillir la marmite.
Oh, ils sont très gentils, on les connaît, ils viennent souvent nous voir. C'est bon discuter avec eux, ils viennent téléphoner.
Je ne peux pas vous dire, il se passe quelque chose qu'on n'arrive pas à le comprendre.
S'ils payent, ils sont chez eux. S'ils payent pas,
Ça, s'ils ont des dettes, c'est même pas pour améliorer leur confort, parce qu'ils ont tout à fait la misère depuis tout le temps. Quoi. C'est pas ni le fils ni la fille, parce qu'ils avaient une mobilette et encore même sans moteur. Alors, c'est pas pour le luxe qu'ils ont fait les emprunts. Hein.
Ce qui va peser aussi dans le parti pris de l'opinion en faveur des portales, ce sont les conditions de la saisie et de la vente de la fumade. La fumade a été vendue par des créanciers des portales à M. Rivière pour la somme de 400 000 francs, 62 000 euros. Pour un manoir de 15 pièces, un total de 4 fermes et 157 hectares de terre, 400 000 francs. Bien sûr, tout ça n'est pas en très bon état, mais c'est 20% de la valeur réelle du bien. 20%. Quand on a un genou à terre, on ne peut compter sur personne. Voilà pourquoi, quand on leur a notifié leur avis d'expulsion, les portales ont décidé de s'enfermer. Voilà pourquoi ils ont l'opinion avec eux. Et voilà pourquoi les gendarmes sont d'une prudence de sioux. Pendant les 2 ans que dure le siège de la fumade, les portales reçoivent beaucoup de soutien de l'extérieur, des lettres et aussi des chèques, de l'argent qui vient parfois de l'étranger. Et les portales, qui ont le sens du spectacle et finalement de la communication, à chaque fois qu'ils reçoivent un don d'un pays étranger, ils mettent le drapeau du pays sur la façade. Et c'est ainsi que petit à petit, il y a devant la fumade un drapeau belge, puis un drapeau allemand, puis un britannique, puis un américain. Un jour, un anonyme leur envoie 20 000 dollars.
J'ai reçu cette chose, j'ai été très heureuse, j'ai été remerciée la Providence.
Mais où est-ce que vous êtes allé? Vous êtes
parti à Lourdes? Eh bien, à Lourdes, j'étais à Lourdes, j'avais fait le chemin de croix, j'ai prié pour tous ceux qui nous ont fait du mal.
Et pour entretenir l'attention des médias et de l'opinion, régulièrement, les portales font le cirque. Un jour, par exemple, ils donnent une interview à un journaliste de Sud-Ouest, le grand quotidien régional. Et pour faire parler d'eux, ils décident de le séquestrer. Le journaliste se débat et finalement réussit à s'enfuir par une fenêtre. Pour l'aider dans sa fuite, un gendarme jette alors une grenade lacrymogène. Le lendemain, Anna Portal, la mère, prétend que sa fille Marie-Agnès en est morte de la grenade. Et son fils Jean-Louis hisse un drapeau noir. Évidemment, quelques jours après, Marie-Agnès est ressuscitée. Pendant ces 2 ans de siège, les portales reçoivent le soutien de grands originaux. C'est ainsi que débarque un jour, dans une superbe Maserati bleu acier, le prince d'Ornac. Sa voiture a une drôle de plaque d'immatriculation. PTE-MD-01. En vérité, c'est un cinglé qui a décidé de soutenir les portales. Il n'est pas plus prince que vous et moi. Son vrai nom est Bertrand Petersen. Il tient un kiosque à journaux à Mulhouse. Et sa plaque d'immatriculation PTE-MD-01 signifie Principauté de Mulhouse d'Ornac Ier. C'est donc une fausse plaque. Et elle a occupé les gendarmes, autant vous le dire. Évidemment, le temps passant, l'entêtement des portales commence à lasser les autorités. L'État ne peut pas se faire humilier durablement et publiquement. En janvier 1975, après 2 ans de siège, l'État profite d'un incident dans la propriété pour demander aux gendarmes d'intervenir. Un après-midi, les ouvriers agricoles de Louis Rivière, le nouveau propriétaire, veulent se lancer dans la moisson. Et Jean-Louis, le fils Portal, commet la bêtise de leur tirer dessus. Un pare-brise du tracteur vole en éclats et on retrouve des impacts de balles sur les sièges. Personne n'est blessé, mais c'en est trop. Le préfet fait intervenir un commando de gendarmes parachutistes, les ancêtres du GIGN. 70 hommes. À minuit et demi, les gendarmes font les sommations d'usage. Avec un porte-voix, ils demandent au portal de se rendre. Pas de réponse. Alors, à 1h du matin, en pleine nuit, il donne l'assaut. Une grenade dans la basse-cour, à l'arrière du bâtiment, pour faire diversion. Ils font sauter la porte d'entrée et pénètrent dans la fumade. « Rendez-vous !» crie un officier. « Montez nous chercher !» répond Marie-Agnès, qui est à l'étage. c'est ce qu'ils font. À l'étage, ils arrêtent Anna, la mère, qui n'oppose aucune résistance. Mais pour les deux jeunes, ça va être une autre histoire. Car voilà qu'ils se mettent à tirer sur les gendarmes. L'un d'entre eux est blessé. Immédiatement, ses collègues ripostent. Le jeune Jean-Louis Portal est touché 3 fois à l'abdomen. Et il s'effondre. Sa sœur est ensuite maîtrisée. Le siège de la fumade est terminé. Jean-Louis est conduit à l'hôpital par une ambulance. Il saigne abondamment. Les deux femmes, la mère et la fille, sont emmenées à la gendarmerie. Elles sont en chemise de nuit et pieds nus. Et les journalistes assistent à une scène surréaliste. En pleine nuit, on emmène le cercueil de Léonce Portal, mort avant le début du siège, et qui n'avait jamais été inhumé. Et sur place, les gendarmes saisissent 8 fusils et un stock de munitions, et posent des scellés sur les boîtes en carton qui contiennent des décennies de documents relatifs aux procédures judiciaires de la famille Portal. En vérité, Jean-Louis est très grièvement blessé. Il est entre la vie et la mort à l'hôpital de Montauban. Et maintenant ? Et maintenant, que faire des femmes ? La mère et la fille ? Le juge sait que s'il les relâche, elles vont retourner là-bas. Ce sera retour à la case départ. Il peut essayer de les envoyer en prison. La mère a une peine à terminer et la fille pourrait être inculpée de complicité de tentative de meurtre. Elle était avec son frère quand il a tiré sur les gendarmes. Le juge ne voit alors qu'une seule issue, l'hôpital psychiatrique. Il ordonne une expertise. 3 experts viennent examiner les deux jeunes femmes, un neurologue, un pédopsychiatre et un généraliste. 10 minutes d'examen en tout. 10 minutes. Conclusion, elles sont démentes et dangereuses. Ouf! On peut donc les enfermer à l'hôpital psychiatrique de Montauban. Et c'est là, à l'hôpital psychiatrique, qu'elles vont apprendre la mort de Jean-Louis. Elles ne pourront même pas assister à ses obsèques. On leur propose juste d'assister depuis le seuil de l'hôpital, encadré par 2 gendarmes, à la sortie du cercueil de la morgue. Elles refusent, conformément à leur destin de résistantes. Jean-Louis est inhumé au cimetière de Saint-Nauphary en même temps que Léonce, en présence du maire et du garde champêtre. 2 tombes anonymes et 1 croix en bois, sans nom. Mais dans les mois qui suivent, il y a bien des gens pour venir inscrire des noms sur ces tombes. Et à chaque fois, les gendarmes viennent les effacer. Trouble à l'ordre public. Quelques temps plus tard, les 2 femmes sont transférées à l'hôpital psychiatrique La Grave, à Toulouse. Elles ne recevront aucun soin. Aucun. Sans doute parce qu'elles ne sont pas malades. Elles y seraient peut-être encore sans un nouveau rebondissement qui va relancer l'intérêt médiatique pour l'affaire. Anna est enfermée dans une cellule en sous-sol de l'hôpital. Et par un soupirail, elle peut, en se mettant sur la pointe des pieds après être montée sur une table, apercevoir la rue. Et en face, une école. Elle finit par obtenir un stylo et de temps en temps un journal. Et elle commence à rédiger des messages sur des feuilles de journaux et à les jeter dans la rue. Des SOS. Et un de ces messages va parvenir à la direction de FR3 Toulouse. Et un journaliste qui couvre l'affaire depuis le début va venir devant le soupirail avec une caméra et réaliser une incroyable interview de Marie-Agnès à travers les barreaux. Elle accuse les gendarmes d'avoir assassiné Jean-Louis et elle lance un appel à l'aide. C'est une bombe médiatique. Le reportage est diffusé au journal régional de 13h. Il est immédiatement repris par l'agence France-Presse qui reçoit des demandes de 29 télévisions étrangères. Le soir même, l'interview de Marie-Agnès fait l'ouverture des journaux télévisés de TF1 et d'Antenne 2. Dans François, l'écrivain Jean Dutour se passionne pour l'affaire. Il publie une série d'articles plus incendiaires les uns que les autres. Ainsi, elles sont folles. On a assassiné son fils, donc elle est folle. On a assassiné son frère, donc elle est folle. Le Canard enchaîne les titres. Mort au dingue. Il se demande pourquoi le prince Ponia, Michel Poniatowski, le ministre de l'Intérieur, a donné l'ordre aberrant d'organiser ce fort Chabrol sur Garonne. L'évêque de Montauban rappelle que Jésus-Christ a refusé de donner son avis pour un partage de terre. Un homme, dit-il, vaut mieux qu'une terre. Jusqu'au moment où le chef de l'opposition de l'époque, François Mitterrand, s'exprime sur Europe 1.
Ah, l'affaire Portal, voyez-vous, elle m'a beaucoup choqué. Je comprends ceux qui, aujourd'hui, se révoltent contre la façon dont l'administration s'est conduite, l'administration d'autorité, impitoyable, méchante, contre ces portales. Comme aujourd'hui, certains aspects de la justice très déplaisants, comme si la société voulait effacer une mauvaise action à l'égard des portales. Mais bon, ben, les portales, bien entendu, sont des gens baroques qui ont poussé, vous avez dit le mot, au paroxysme des sentiments élémentaires, c'est évident. Mais la façon dont ils se sont conduits, les portales, que je déplore, ne va pas jusqu'à accepter le sort qu'on leur réserve. Et je pense que ce serait très important qu'on approfondisse notre réflexion, qu'on organise des enquêtes et qu'on empêche la société de se comporter comme elle le fait aujourd'hui à l'égard de ces pauvres gens.
Finalement, le garde des Sceaux de l'époque, Jean Le Canuet, ordonne la remise en liberté des deux femmes en fixant une seule condition, qu'elles ne remettent jamais les pieds à la fumade. Il annonce aussi la constitution d'une commission d'enquête sur cette affaire et le 22 février 1975, les deux femmes sont libérées. Les deux acceptent l'offre d'un médecin de Montpellier qui, ému, a proposé de les héberger. Il faut tout de même que je vous dise ce que conclut cette commission d'enquête. D'abord, elle dit oui, il y a eu des dysfonctionnements dans le système judiciaire et aussi des failles dans la législation. Et elle préconise une réforme de la loi sur les saisies immobilières. Je vous rassure, elle ne verra jamais le jour. Et au passage, elle confirme la validité de la vente de la fumade en disant qu'on ne peut plus la remettre en cause. Enfin, par des circonvolutions juridiques complexes, la commission décide, un peu pour s'excuser, d'attribuer une partie de l'héritage de Léonce, le grand-père, à Anna, la mère, et à Marie-Agnès. Une petite maison à Montauban. Et les deux femmes vont donc s'installer dans cette petite maison et reprendre le cours de leur vie. Marie-Agnès finira par être embauchée à la mairie de Montauban. Anna, la mère, est morte en 1991 et jusqu'au bout, vous devez savoir ça, elle a douté du décès de Jean-Louis, son fils, et elle a demandé sans succès une exhumation et une autopsie. Monsieur Rivière a donc exploité les terres de la fumade, mais il a laissé le manoir à l'abandon. Et finalement, le manoir, totalement en ruine, a été racheté en 2006 par un avocat de Montauban qui en a fait une superbe maison de campagne. Aujourd'hui, Marie-Agnès est la dernière survivante. Elle a 65 ans. Elle vit toujours à Montauban. Et elle n'a pas perdu sa combativité. Elle se passionne, figurez-vous désormais, pour la défense des chats. Le nouveau propriétaire lui a proposé, mais à ce jour, elle a toujours refusé, de retourner à la fumade. Si vous voulez compléter cette histoire, lisez « L'étrange affaire Portal » d'Emmanuel Dain aux éditions Imago.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.